on va réattaquer ce qui, dans l'expérience de l'analyse institutionnelle, ce qui est quand même important de voir, c'est qu'elle s'est terminée en grande partie sur un échec. C'est-à-dire que toutes les différentes écoles de pensée, les dizaines de chercheurs qui ont créé des groupes d'analyse institutionnelle, se sont retrouvés plus ou moins marginalisés, en tout cas n'ont jamais réussi à percer dans l'institution. Ils étaient sur le fil du rasoir, pour reprendre l'expression d'Hubert. Pourquoi ? Mon hypothèse est la suivante. Elle consiste à dire que ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de transposer directement à l'institution le dispositif de la psychothérapie. Comment ça marchait, leur truc ? Au fond, il y avait un staff intervenant. Le staff intervenant, c'était le groupe de consultants-chercheurs qui faisaient l'analyse. Il y avait un groupe client. Le groupe client, c'était la partie de l'organisation qu'il fallait comprendre pour changer. C'était le patient, d'une certaine manière. Et puis, le staff client, c'était la partie de l'organisation qui payait et qui était demandeuse du changement. Le véritable problème, c'est que ça revient... Alors déjà, c'est pas très facile, la situation de changement psychothérapeutique. Mais là, en plus, c'est avec un tiers payant. Et le tiers qui paye, c'est précisément l'autorité organisationnelle qui, à coup sûr, va faire l'objet des critiques du groupe client. Donc, la direction d'une entreprise industrielle payer des intervenants pour venir remuer la merde de l'organisation, ça s'est fait. Mais, comment dire, c'était pas hyper exothermique comme système, quoi. Ce qui veut dire qu'ils ont réussi à faire des interventions très intéressantes, notamment les Anglais du Tavistock Institute, dont je n'ai pas parlé, mais qui sont dans le même genre de truc. Mais, en fait, on ne peut pas dire que ce soit une épidémie, quoi, que tout le monde ait très envie de faire ça. La deuxième chose, c'est que toute cette analyse institutionnelle est très marquée par l'époque à laquelle elle s'est développée. Et à cette époque-là, le problème central, c'était la lutte contre l'autorité, contre un système social trop autoritaire, trop rigide, trop fixé, etc. Par exemple, le bouquin de Mindel s'appelle « La révolte contre le père, la socio-psychanalyse », donc daté des années 60. Il est évident qu'aujourd'hui, 20 ans après, dans la cité par projet de Boltanski et Thévenot, où précisément c'est sur nos désirs et nos enthousiasmes que l'organisation se nourrit, la révolte contre l'autorité rigide de l'institution, c'est plus un thème, quoi. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, on est ramené, mais dans des termes complètement différents, à la même situation que les situationnistes des années 60. C'est-à-dire qu'on est tout seul face à un système qu'on essaie de comprendre, qui est quand même vachement déroutant par rapport à ce qu'on espérait, par rapport à ce qu'on a appris, mais qui n'est pas du tout le même que celui contre lequel se sont mobilisés les gens des années 60. La question posée, finalement, c'est comment on va gérer, nous, la relation entre l'instituant et l'institué dans la cité par projet. Sachant que l'institution, elle est devenue géniale pour récupérer notre faculté instituante, puisqu'elle se nourrit de nos projets. Mais nous, est-ce que ça permet vraiment de faire les organisations et les institutions qu'on veut ? En tout cas, ce que je conclus de l'échec du développement de l'analyse institutionnelle, c'est la question suivante. Deux questions qui sont cruciales pour nous. La première, c'est quand nous intervenons, quels sont nos appuis instituants ? Donc, nous, on dit on arrive avec notre désir d'environnement, notre regard environnemental. Bon, c'est sympa, mais ce regard, donc, il s'autorise de notre propre désir, c'est déjà bien. Mais est-ce qu'il s'ancre dans des courants instituants ? Est-ce qu'il s'ancre dans des réseaux qui ont envie d'instituer ? Ça, c'est sur un plan théorique, la question que tu as posée tout à l'heure sur un plan pratique. Sur quelle force ou veine ou aquifère instituant on se branche notre propre désir d'intervention ? Et puis après, évidemment, comment on s'insère dans l'institué ? Ça, c'est la question, la première question. Et puis la deuxième, je pense que c'est une leçon... Tous les trucs que j'ai lus, que ce soit en psy ou sur l'analyse institutionnelle, m'amènent à constater avec surprise que, de manière répétée, les gens tombent dans l'illusion de croire qu'ils vont pouvoir instituer l'instituant en tant que tel. C'est-à-dire qu'ils vont arriver à créer une institution qui jamais ne deviendra rigide, instituée, etc., qui vont arriver en gros à instituer le désir, en tant que désir. Alors qu'en fait, ce qu'on peut instituer, c'est l'objet du désir, ou c'est au moment où j'institue le désir, eh ben j'institue autre chose que le désir. Mais croire qu'on va pouvoir, par exemple, instituer la créativité comme créativité, qu'on va pouvoir instituer le moment de création collective comme un moment de création collective qui durera toujours, ça, c'est pas possible. Or, de manière tout à fait étonnante, même les auteurs comme Loureau et tout, ont essayé de créer des équipes d'analyse institutionnelle dans le cadre de la fac, dans des cadres institués, et ils ont cru qu'ils allaient pouvoir instituer la révolution permanente. Pour moi, l'impasse de croire qu'on peut instituer l'instituant, c'est le parti révolutionnaire institutionnalisé qui a gouverné le Mexique pendant 70 ans. Ben non, c'est plus un parti révolutionnaire, c'est un parti institutionnalisé. Donc, je pense que si on veut remobiliser les ressources de toutes les formes d'analyse institutionnelle, il faut qu'on se promette de ne jamais essayer d'instituer l'instituant comme instituant. Ben ouais. Alors, comment fonder, à la lumière de toutes ces expériences d'analyse institutionnelle, quelles perspectives on peut avoir pour revitaliser l'intervenance des recherches. Autrement dit, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de recherches qui ont pour simple principe de répéter sur des modes divers le discours de l'institution. Oui, il est important de mettre en synergie l'économie et l'environnement, des trucs qu'on a déjà entendus 150 fois et qui sont répétés ad nauseam. En fait, la capacité de la recherche à faire une différence, hein, on pourrait appeler ça comme ça aussi, l'intervenance, est malade de suradaptation. C'est un concept d'Eric Berne, la suradaptation. C'est ce qui se passe quand quelqu'un, au lieu de suivre son désir, suit un désir factice d'être merveilleux dans le regard de l'autre. Et donc, d'exceller dans les règles de l'institution. Donc, l'intervenance des recherches, elle est malade d'une suradaptation à des institutions hégémoniques. Comme il n'y a pas de salut en dehors de l'organisme de recherche, chacun se demande comment parler le langage de l'organisme de recherche. Elle est malade de discours rabâchés et obligés. Quand on t'explique que faire de la théorie, c'est d'abord répéter tout ce que les autres ont dit avant, et ensuite tu pourras parler, évidemment, tu es un peu malade au bout d'un moment. Et puis, par des espèces d'insistance obsessionnelle compulsive sur des méthodes rigides et microcosmiques. Donc, l'intervenance et le sens de la recherche ne peut se refonder que dans le désir et le souci du chercheur. Le seul antidote à la suradaptation, c'est le désir. Le seul antidote au discours rabâché, c'est la pulsion de dire autre chose, quoi, d'avoir autre chose à dire. Et donc, Loureau écrivait, c'est pour ça que je l'avais cité, on est un bric-à-brac d'institutions, mais en fait, on est aussi un mélange d'institutions et d'instituants. La difficulté, c'est de retrouver en nous les parts d'instituants, et puis de les reconnecter dans les mouvements instituants qui sont autour de nous. Et donc, il faut chercher quelles sont notre âme instituante, qui peuvent porter pour nous une force d'intervention, et puis il y a un certain nombre de nœuds à trancher, c'est-à-dire de conneries à vraiment arrêter. Alors, ça fait râler tout le monde, mais ouais. Pour faire ça, on peut s'inspirer un peu de Lacan. Alors Lacan nous propose par exemple deux encouragements. Une de ses formules fétiches, c'est « ne cède pas sur ton désir ». C'est-à-dire quand tu es confronté à la réalité, tu peux négocier beaucoup de choses, mais par contre ton désir, ça c'est le non négociable, il ne faut pas céder sur son désir. Et puis la deuxième, c'est « l'analyste ne saurait s'autoriser que de lui-même ». C'est-à-dire que si un psychanalyste lacanien est en mesure de psychanalyser, c'est parce que lui s'autorise à intervenir pour changer les gens. Ça n'est pas parce qu'une institution l'a déclaré conforme dans son discours ou dans ses manières de faire. Or, je pense qu'une recherche qui est capable de faire une différence, c'est une recherche qui s'autorise avant tout d'elle-même. Mais il y a un malentendu fondamental à éviter. S'autoriser de soi-même, ça veut dire qu'on est responsable de son désir d'intervenir. Et ça ne veut pas du tout dire qu'on est libre au sens de « je fais ce que je veux ». parce que je fais ce que je veux, c'est-à-dire je débarque dans le paysage avec mes questions, puis je les balance à la figure des gens. Ça, c'est l'analyse sauvage dans le champ psychologique. Vous savez, c'est le neveu qui a lu Freud à 17 ans et qui fait chier tout le monde pendant 3 semaines en posant des questions, etc. Donc ça, c'est pas bien. Et le pire du pire, alors là, si vous pensez à des chercheurs ou euses ayant existé, pas à celle à laquelle vous pensez, laissez-vous aller, c'est des gens qui font de l'analyse sauvage, c'est-à-dire du commentaire libre, ils donnent des bons points, des mauvais points et tout, en s'autorisant de l'institution. C'est-à-dire, je suis chercheur, et donc je peux commenter sur ce qui se passe, etc. J'ai pas de compte à rendre sur mon cadrage théorique et le désir propre dont je m'autorise, de quoi je me réclame. Non, non, je suis l'institution de recherche, j'ai le droit de commenter comme je veux. Donc ça, pour moi, c'est le pire du pire. C'est l'analyse sauvage instituée, là, c'est n'importe quoi. Et puis, l'expérience lacanienne nous apporte aussi un avertissement. C'est l'imbroglio de ce que Lacan a appelé la passe. L'idée de la passe, c'est la... Bon, on va peut-être gagner du temps. Tant pis. En tout cas, Lacan a essayé d'instituer le... Il a essayé d'instituer l'analyste qui ne s'autorise que de lui-même. Et il n'est pas difficile de deviner qu'instituer l'analyste qui ne s'autorise que de lui-même, eh ben, ça débouche sur des problèmes sérieux, puisque ça revient à instituer l'institution, l'instituant comme tel. Voilà. Donc, on débarque, et alors là, maintenant, c'est là que vous allez péter les fusibles sur les néologismes. Est-ce qu'on va pouvoir commencer à se doter d'un vocabulaire pour réfléchir à l'immanence et à l'intervenance du chercheur ? Alors, des mots pour le dire, ça c'est évidemment une allusion à un livre célèbre qui a popularisé la psychanalyse. Comment des chercheurs peuvent-ils parler de leur immanence et de leur intervenance ? Vous voyez que jusqu'ici, je me suis cantonné dans une description générale du problème. Mais maintenant, imaginons qu'on soit pris dans une situation donnée. Je suis là, je veux faire telle recherche, il y a tels acteurs, etc. Comment je décris ma situation d'immanence par rapport à une autre situation d'immanence ? Tant que nous nous posions seulement la question, est-ce que c'est une intervention ou pas ? Il suffisait de dire, c'est de la recherche-action, c'est de l'intervention, il y a le machin et tout. Non, si chaque recherche a sa propre intervenance, il faut beaucoup de mots pour pouvoir parler des différences entre les intervenances, et c'est ça le problème. Alors, on ne peut pas le faire en s'appuyant sur des croyances épistémologiques déplacées, du genre l'épistémologie de wagon, pose ton hypothèse, va sur le terrain, reviens dans 3 ans et dis-nous si elle est validée. On peut pas non plus seulement recourir au vocabulaire de la sociologie des sciences, parce que sans ça, ce vocabulaire induit automatiquement le fait de se mettre à l'extérieur de la démarche de recherche, de la voir de l'extérieur, et ne fournit pas un vocabulaire pour parler de cette démarche depuis l'intérieur de cette démarche. Or, il y a un concept dans les sciences sociales qui est tout à fait qui parle de l'intervenance, c'est le concept d'empathie. Donc l'empathie, c'est le fait pour le chercheur de rentrer dans le trip de l'acteur, si on peut dire, c'est-à-dire d'essayer de sentir ce que sent l'acteur, d'adhérer à son senti, à ce qu'il éprouve, et de faire de ça un matériau qu'il va pouvoir utiliser dans sa recherche. Voilà un mot qui décrit un aspect de l'intervenance. Mais est-ce que ce mot suffit ? Ben moi, je pense que non. Mais par contre, il est utile. Il est utile pour voir, dans la conjonction, disjonction entre l'analyste ou le chercheur et l'acteur, l'empathie, c'est une des règles possibles. Mais on peut aussi avoir, par exemple, l'antipathie. Quand le chercheur intervient pour dénoncer un mode d'être dont il considère qu'il ne devrait pas exister, c'est pas de l'empathie. Moi, j'ai pas besoin d'empathie pour Didier Hervé. C'est complètement inutile. En revanche, une antipathie, c'est-à-dire une désapprobation de la manière dont il ressent les événements, bah ouais. Pardon ?
Ton antipathie a des biologies.
Non, pas forcément. Pas forcément.
C'est Dieu le dire.
Comment tu peux le comprendre ? Dans l'empathie des anthropologues, tu as deux choses. Tu as l'empathie et ensuite tu as le recul scientifique. l'antipathie n'a pas de place. Donc de toute façon, dans, si on veut que l'antipathie ait une place, il faut élargir le vocabulaire. Alors, on va y aller. me suis lancé dans une entreprise très simple qui consiste à dire ben, il y a toutes sortes de relations possibles entre moi, le chercheur, et l'acteur. Et ben, on va fabriquer les mots pour les dire, ces relations. Alors, comment on va les fabriquer, ces mots? On va utiliser des radicaux grecs. Donc, pathi, c'est le senti. Logis, c'est le discours, on pourrait dire doxy aussi, comme dans l'opinion. Nomi, c'est la loi, comme dans autonomie. Autonomie, c'est autonome, c'est celui qui se donne sa propre loi, c'est-à-dire ses propres repères normatifs. Praxi, c'est l'action. Et puis, topi, c'est le lieu, c'est-à-dire le lieu qu'on occupe dans la grande situation. Donc, on va essayer de voir si sur ces cinq choses, est-ce que je partage, est-ce que, comment le chercheur se situe par rapport à l'acteur, au niveau du vécu, comme on disait à une époque, au niveau du discours, au niveau des repères normatifs, au niveau de la pratique et au niveau du lieu où il se situe dans le grand système. Et ces positions, on peut les voir comme... quand le chercheur adopte la posture de l'acteur, bah c'est le radical « en », il est dedans, il rentre dedans. Quand il accepte de converger vers les mêmes choses, c'est « sin » qui converge. Quand il est pas du tout, quand il se place à l'opposé, c'est « anti ». Quand il déclare ne pas se situer ailleurs, bah c'est « allo ». Et quand il explique que lui, c'est pas son problème, qu'il n'a pas de repère normatif, etc., c'est « a ». Donc, la neutralité, elle correspond à une apathie. Le chercheur n'a pas d'émotion. Il a des chemises en tergal nylon avec des stylobies dedans, mais il n'a pas d'émotion. Le chercheur n'a pas de discours. Il n'a que des hypothèses et des théorèmes. Le chercheur n'est pas porteur de valeur. Il est anomique. Vous voyez ce que ça veut dire en sociologie. L'anomie, c'est le chaos de l'antisocial. Quelqu'un qui n'a pas de repère normatif. Apraxie, il n'est pas concerné par l'action, il fait de la recherche fondamentale. Et puis, c'est de l'atopie, l'endroit où il est dans le système ne compte pas puisqu'il est porteur d'un discours universel. Donc, ceux-là, je les ai mis en maigre, puisqu'évidemment, ce discours-là, ben, c'est un discours qui n'assume aucune intervenance. Alors, par contre, on va trouver des choses plus intéressantes avec la colonne de rentrer dans le trip de l'acteur. Parce que on peut parler d'empathie, c'est une chose, mais on peut parler d'endoxie aussi. Endoxie, ça veut dire j'endosse le discours de l'acteur. Ça veut dire que je suis un chercheur de l'INRA qui bosse sur agriculture et environnement, et tous mes textes comportent une clause qui dit « à condition de ne pas nuire aux revenus des agriculteurs ». Cette clause, c'est le discours de la FNSEA depuis 1978 ou 80. Et donc, un chercheur qui adopte cette clause, il est dans une position endoxique. Il adopte le discours de l'acteur. Un chercheur qui dit « il faut absolument sauver les ours », il est soit endoxique, soit syllogique ou syndoxique par rapport aux acteurs écolos. Ensuite, anomie. C'est la position d'un chercheur qui adopte les repères normatifs des acteurs qu'il étudie. Donc, moi, je suis un chercheur, je suis neutre, mais comme je sais que j'interviens dans une situation, c'est les acteurs qui vont donner les repères normatifs. Je pense, par exemple, qu'à partir de ce vocabulaire, on pourrait commencer à préciser beaucoup le fameux concept d'accompagnement de Barreto, d'Aquino, etc. Parce qu'ils disent, on est dans une modélisation d'accompagnement. Mais elle accompagne quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce que ça veut dire qu'elle adhère aux repères normatifs des acteurs en disant « nous sommes au service des acteurs, donc il est normal que nous adhérions à leurs repères normatifs, mais sur un plan professionnel uniquement, le temps qu'on travaille pour eux ». Ça veut dire une chose. Si, au contraire, l'accompagnement veut dire que le chercheur est lui-même porteur de repères normatifs et que ses repères normatifs convergent avec ceux de l'acteur, alors on est dans une position synomique. Mais ça ne veut pas dire la même chose. C'est-à-dire que la relation entre quelqu'un qui va faire de la modélisation d'accompagnement et qui se met au service des valeurs de l'acteur. C'est pas la même chose que Farid qui arrive dans les Alpes, porteur lui de valeurs en faveur du loup, et qui va travailler et accompagner des acteurs qui, eux aussi, mais pas forcément pour les mêmes raisons, sont en faveur du loup et partagent des repères normatifs. Donc, on va pouvoir commencer à démêler des nœuds sur ce que ça veut dire, ces relations avec les acteurs. De la même manière, entre, on va prendre la ligne de la pratique, de l'action. En praxis, ça voudrait dire que le chercheur se met au service des actions de l'acteur. Par exemple, il va faire de la modélisation d'accompagnement pour aider les gestionnaires d'un réseau d'irrigation dans leur action de gestion du réseau d'irrigation. Sympraxie, c'est différent. On est dans une situation où effectivement le chercheur est d'accord pour aider l'acteur, mais il le fait dans ses termes propres et son action à lui ne passe pas forcément par l'action de l'acteur. Alors, exemple, on intervient auprès de l'IPHB il y a 10 ans. Le but, c'est de favoriser le débat social sur le thème de l'ours pour faire accepter une gestion commune dans les vallées. L'empraxie, ça veut dire qu'on apporte de l'eau au moulin de l'institution, par exemple, sous forme de méthode, etc. On est dedans. La sympraxie, ça veut dire que, en accord avec l'institution, on va, nous, intervenir directement sur les populations en organisant des réunions nous-mêmes, par exemple. Donc, je pense qu'il y a là, des différences tout à fait importantes. Antipraxie, ça va vouloir dire qu'on agit pour contrer les agissements de l'acteur par rapport auquel on essaye de réfléchir. Donc, par exemple, il est clair que à la suite de l'expérience qu'on a eue avec l'IPHB, moi je suis rentré dans une relation antipraxique avec Henri Ollagnon, Jean Lassalle et Didier Hervé. C'est-à-dire que le fait d'entraver leur pratique est devenu pour moi une partie constituante de mon mode de recherche et d'intervention. Allopraxie, c'est le chercheur qui dit « Attendez, moi je fais tout à fait autre chose ». Certes, je fais des choses, mais c'est sur un autre terrain.
J'ai mal à comprendre la loi.
Eh bien, c'est tout à fait une autre pratique. Par exemple, j'ai une pratique dans le monde académique qui n'a rien à voir. Par exemple, le chercheur qui te dit, moi, j'accumule des faits pour augmenter la masse totale de connaissances disponibles dans le monde académique. Il peut dire que c'est une pratique, mais elle est étrangère à la pratique du terrain, à la pratique des acteurs du terrain. Il est pratique sur un autre plan. Voilà. Tous ces néologismes ne vont pas forcément être tous utiles ou fonctionner tous, d'autant plus qu'il y a aussi des problèmes de construction plus linguistiques. Un exemple d'antilogie que je trouve très amusant, c'est Latour avec les politiques de la nature. Latour nous dit « Je partage les buts des écolos ». Donc, il est en synonymie avec les écolos. Il est même d'accord pour dire « je veux leur donner un coup de main », donc il se dit en sympraxie avec eux. Mais en revanche, il est dans une posture d'antilogie complète, puisqu'il dit « les écolos ne disent que des conneries, donc je suis d'accord avec ce qu'ils font, mais pas avec ce qu'ils disent ». C'est intéressant comme position. Et en tout cas, on peut commencer à parler de cette position en disant « mais quelles sont les conséquences de ton antilogie avec les écolos? Quels sont les fondements réels de la synonymie que tu affiches? Comment ton antilogie rentre ou pas en conflit avec la sympraxie que tu revendiques vis-à-vis des écolos. » Alors, donc, tous ces mots... Alors, l'autre problème aussi, c'est que certains de ces mots existent déjà dans le vocabulaire courant et que ça peut induire à des confusions. Je vais prendre l'exemple de sympathie. Je pense que dans la relation au terrain... La notion d'empathie, elle est très importante, mais elle pose un véritable problème. C'est que elle passe par l'idée que c'est le vécu des acteurs qui est le point clé de la recherche en sciences sociales. Et donc que le chercheur doit rentrer dans le vécu des acteurs. Mais pour des gens comme nous, qui nous intéressons à l'analyse stratégique, dans une analyse stratégique, les émotions des acteurs, c'est pas le point clé. Les points clés, c'est les buts que poursuivent les acteurs, les actions des acteurs et les valeurs qu'ils défendent. Ça peut même être contre-productif. Si vous avez des acteurs qui sont complètement dominés dans le cadre d'un rapport de force et qui cherchent une stratégie et que tout ce que vous avez comme posture, c'est l'empathie par rapport à leur désarroi, quelle est l'aide réelle que vous allez leur apporter dans une réflexion de gestion stratégique? Donc on voit bien que le fait d'avoir un seul mot, l'empathie, pour parler de la relation avec les acteurs, ça enferme dans un seul mode de relation. Personnellement, par exemple, j'ai très peu d'empathie avec les acteurs d'environnement. Ce n'est pas mon problème de savoir comment se sent tel expert junior de CI ou de WWF. Ce n'est pas mon problème. J'ai une sympathie dans la mesure où je partage avec lui des passions écologiques. J'ai envie de sauver tel et tel truc. Mais je n'ai pas envie de savoir si cette sympathie correspond à une identité de sentiment, de vécu, de passion. Ce n'est pas mon problème. On converge sur un ressenti par rapport à la situation. Mais moi, je n'ai aucune envie d'être empathique au même sens que le serait un sociologue ou un anthropologue. Donc, mais c'est vrai que quand on prend le mot comme ça, il prend un sens plus technique que la sympathie au sens simplement de la sympathie. En revanche, le concept de sympathisant dans une cause politique dit bien ça. Le sympathisant, il n'est pas forcément empathique. Il n'a peut-être pas envie de se sentir comme François Hollande ou Fabius. En revanche, il partage des passions politiques avec Hollande et Fabius.
Non,
les passions. Pardon ?
Pour moi, l'empathie, ça veut dire permettre que l'autre s'exprime. En général, si tu es en sympathie, tu n'as pas besoin d'empathie.
Voilà, c'est deux choses différentes. Mais attends, laisse-moi finir parce que sans ça, on va pas s'en sortir. Ça, c'était que le premier plan de fabrication. Lui, il parlait de la relation entre l'analyste et l'acteur. Mais il y a le chercheur, il a un deuxième problème. C'est sa relation avec l'institution. Et donc ça, je vous propose d'ouvrir l'analyse de cette relation à partir de deux lignes de polarisation. D'une part, le modèle centre-périphérie. Donc, centre-périphérie, c'est le modèle qui consiste à dire l'institution, elle a un centre et des marges. Donc, là, on connaît tous les concepts d'orthodoxie, un économiste orthodoxe, et puis des économistes hétérodoxes qui fonctionnent dans la périphérie de l'économie instituée. Mais il y a une autre polarisation, c'est celle qui sépare d'un côté le bon discours et de l'autre, le mauvais discours, c'est-à-dire le discours inaudible. Donc, toujours avec la même logique des racines grecques, ça donne eudoxie, c'est la bonne opinion, et puis kakodoxie, comme dans cacophonie, c'est l'opinion inaudible, la mauvaise opinion, l'opinion cacaboudin. Ce qui est très important, c'est de voir que les deux oppositions, très souvent, entrent en synergie l'une avec l'autre, mais ne se confondent pas, et que tout le jeu de chat et de souris entre le chercheur et l'institution, il va jouer sur le fait de séparer les deux axes. Par exemple, l'institution aura tendance à dire l'orthodoxie, c'est-à-dire le discours juste, celui qui est central, est aussi le bon discours, c'est-à-dire celui qui moralement est tenable. Et au contraire, l'économiste hétérodoxe, il va dire, attendez, l'orthodoxie économique, elle mène à des cacodoxies, c'est-à-dire à des affirmations ou à des conclusions qui sont insupportables sur le plan humain et intenables moralement. Et donc, l'orthodoxie doit laisser de la marge de manœuvre pour pouvoir aller vers le bien. Et donc, on a là un espace de lutte et de sens qui est très important. Mais ça ne fait pas suffisamment de néologisme, parce que là, on n'a parlé que des discours. Donc, il faut, là aussi, s'interroger sur la relation entre le chercheur et l'institution au niveau des quatre cases du modèle d'intervenance. Est-ce qu'il partage les passions de l'institution? Est-ce qu'il partage le discours, ou dans quel terme il s'inscrit dans le discours de l'institution? Qu'en est-il par rapport aux valeurs de l'institution? Et qu'en est-il par rapport aux objectifs pratiques de l'institution? Alors, par exemple, un chercheur orthopathe, c'est un chercheur qui éprouve les bonnes émotions, par exemple, qui est révolté qu'on puisse exclure des paysans des réserves naturelles. Ça, c'est une orthopathie. L'institution a dit que ce n'était pas bien. Le chercheur vit ça comme pas bien. Il est dans le discours conforme. Et il aura, dans certains cas, tendance à dire que c'est une eupathie, c'est-à-dire que si vous ne partagez pas cette indignation, alors vous êtes des êtres inhumains. Vous êtes des salauds, vous êtes des cacopathes, et donc, vous avez des passions inadmissibles, et donc, à ce titre-là, vous êtes irrecevable. Un hétéropathe, évidemment, c'est celui qui va être sensible à des choses qui ne sont pas au cœur du discours de l'institution. Un exemple tout à fait classique, c'est les spécialistes de sciences de gestion qui s'intéressent aux tout petits entrepreneurs. L'orthopathie de la gestion stratégique, c'est le type qui lit des études de cas sur Microsoft, sur Sony, etc. Et le gars qui se prend de passion pour les stratégies du plombier, c'est un hétéropathe. Il est dans une passion qui est marginale par rapport à son institution disciplinaire, mais qui n'est pas pour autant une cacopathie. C'est-à-dire, personne ne va lui dire c'est inhumain et dégueulasse de s'intéresser aux passions de plombier. Pardon ? Ah bah si, tu peux avoir des orthopathes... Mais oui, quand tu lis René Passet, il te dit « Regardez le discours des économistes orthodoxes. » Comment ça ? Non, à l'institution. Le rapport de l'analyste à l'institution.
C'est de savoir qui colle l'étiquette.
Alors, non. Alors justement, là, on va y venir. Ensuite, on a l'habitude sur l'aspect doxie, orthodoxe, on a vu... sur l'aspect nomie, il y a un problème de construction grammaticale, en ce sens que hétéronomie, ça veut dire autre chose. Donc là, il y a des problèmes de technique, de fabrication des mots qui sont encore à régler. Bref. Donc en tout cas, on a là des registres. J'en suis convaincu. Pas tous. Encore une fois, pas tous. Mais par exemple, moi, le plus utile pour l'instant, pour moi, c'est synomie. Le fait de dire qu'une recherche partage des repères de valeur ou ne partage pas des repères de valeur, et ben pour moi, ça change déjà beaucoup de choses. Alors là où vous allez être mal, pardon ?
L'institution dont tu parles, c'est l'institution de recherche qui emploie
la... Non, pas forcément. On tombe là dans un malentendu. Là, on discute comme si je faisais une typologie. Ça n'est absolument pas le cas. Je propose des mots pour une discussion. Ces mots ne fichent pas ce dont on parle dans des tableaux à cases. Il propose un mot pour dire « je ne partage pas la passion qui m'est proposée », alors par qui il faut voir et tout, comme juste. C'est pas des cases, c'est des mots. Donc là, je suis dans la génération de mots, et après, ces mots, ils sont là pour discuter, mais ils ne fichent pas. Il est évident que je suis pas là pour faire une typologie à facteur X case des attitudes. Je propose des mots.
Ça peut s'utiliser pour l'institution qui l'emploie, pour l'institution...
Voilà, pour plein de choses. Voilà. Et en plus, c'est évidemment dans le cadre d'une discussion, c'est-à-dire que c'est pas un tel qui colle des étiquettes à un tel. Alors évidemment, moi, je peux assigner quelqu'un en lui disant « t'es un cacopathe ». Et donc, moi, tous les jours, il y a des gens qui me traitent de cacopathe. Alors, ils me le disent pas aussi clairement, du coup, après, on n'arrive pas à discuter. Mais ils me disent, tes passions écologiques sont des passions fascistes. C'est Luc Ferry. Luc Ferry, son bouquin, il aurait pu l'appeler « Écologistes, vous êtes des cacopathes et des caconomes ». Donc, ça suffit encore pas, ce vocabulaire, pour une raison très simple. C'est qu'on a oublié une dimension de relation très importante, c'est celle de l'analyste avec lui-même. Notamment... La question de savoir de qui l'analyste reçoit son discours, sa loi, ses passions. Alors, un des mots classiques, celui-là, c'est autonome. Autonome, c'est celui qui se donne à lui-même sa propre loi. Et hétéronome, c'est celui qui reçoit de l'extérieur sa loi. La loi qu'il guide, les repères normatifs. Et puis, la deuxième ligne que je propose, c'est celle qui sépare le schizo de l'entier. Schizo, c'est celui qui est porteur de valeurs contradictoires ou de discours contradictoires. Par opposition à holo, j'en cherche un mieux, mais en tout cas, c'est celui qui est cohérent dans son discours, ses valeurs, etc. Donc, même principe que tout... Pardon ? Non, parce que mono, c'est trop carré. Holo, ça veut dire cohérent, ça ne veut pas dire mono, tu vois. C'est... Tu peux être entier sans être plat, quoi. Donc, du coup, on va arriver, toujours selon la même logique, à pouvoir dire qu'un chercheur est tiraillé dans des passions contradictoires. Il est schizopathe. Il adore l'écologie, et puis il fait des modèles forestiers dans le cadre de son organisme de recherche pour intensifier la coupe des arbres. Ça le désole, mais il arrive à ne pas regarder les deux en même temps et à pas avoir d'angoisse par rapport à ça. Schizodoxie, on pourra le dire, par exemple, d'une institution qui tient des discours contradictoires, qui dit « nous sommes les garants de la biodiversité » et ensuite qui passe l'hélico avec les herbicides. La schizonomie, évidemment, c'est pareil. Alors, vous voyez qu'il y a encore quelques problèmes. Il y a aussi des problèmes techniques. On retrouve hétérodoxie. Donc, je ne suis pas arrivé au bout encore de l'affinage grammatical. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas... Donc, je ne pense pas que tous les mots vont fonctionner. Il s'agit encore moins de ranger les gens dans un système à cases. C'est absolument pas le cas. Mais au moins, on a des propositions de mots pour dire des choses qu'on ne peut pas dire avec empathie, la liberté du chercheur. Chercheur, je suis autonome. Ah, t'es autonome, d'accord. Mais bon, t'es à l'INRA. Quid des valeurs normatives de l'institution ? Comment tu gères ça ? T'es autonome. Alors, à quoi ça sert tout ça ? Bon, d'abord, évidemment, le vocabulaire, il a décanté, a expérimenté, etc. Pour l'instant, c'est une proposition. Ensuite, il est clair que le but n'est pas de fonder une nouvelle sociologie des sciences. Il n'y a pas besoin de ces catégories-là pour faire de la sociologie des sciences. En revanche, il y a besoin de mots nouveaux pour parler de ce qu'on est en train de faire quand on fait de la science en essayant d'être analyste de ce qu'on fait. C'est du moins mon hypothèse. Et puis, ce vocabulaire, il est fait pour des situations de discussion qui sont... pas préexistantes, mais celles qui existent à construire. Ils sont là pour donner des mots pour ces interrogations que j'appelais de mes voeux dans Res Zero. Comment tu mets en relation ton souci, ton discours, etc. C'est des mots qui permettent d'affiner, de parler de ça. Alors, dans trois types de situations en tout cas, les situations analytiques, c'est les situations où on parle entre intervenants et personnes qui bénéficient de l'intervention, mais qui sont globalement dans le même mouvement d'intervention. Les situations critiques, c'est au contraire des situations de discussion entre des personnes dont l'intervenance est contraire. Par exemple, quand je discute avec Olagnon, je suis avec lui dans une posture critique et lui va l'être avec moi. Et les situations réflexives, c'est celle de l'analyste qui discute avec lui-même. Donc, il est important de voir que s'il faut qu'on avance, il ne faut pas qu'on confonde la discussion analytique entre des gens qui sont pris ensemble dans des situations d'intervention, la discussion critique de gens qui interpellent d'autres et la discussion réflexive. Bon, il ne s'agit évidemment pas de réinstaurer de nouveaux dispositifs microcosmiques. L'enjeu, c'est celui qui était dans la citation de Caisse que je vous ai passée tout à l'heure. Si on veut que la grande situation, le dispositif avec un grand D, devienne accessible à l'intervention, alors il faut qu'on puisse le décrire et le comprendre pour qu'il nous soit familier dans les mêmes termes que si c'était un micro-dispositif et qu'on puisse parler de nos relations avec ce grand dispositif dans les mêmes termes qu'on parle des relations avec le micro-dispositif. Pour être plus clair, l'analyste institutionnel, il va créer son dispositif d'intervention, il va utiliser ses approches théoriques pour gérer ce micro-dispositif d'intervention. La proposition que je fais, elle consiste à dire pas du tout, ce qu'il faut, c'est requalifier avec des mots et des contextes adaptés la situation réelle, le dispositif avec un grand D, et une fois qu'ils seront requalifiés, alors notre intervention d'analyse sera gérable pour nous aussi bien que l'intervention sur un micro-dispositif. À une condition supplémentaire, c'est qu'au lieu de prendre appui sur le fait de s'adapter au dispositif, on prenne appui sur notre propre force d'intervention, notre capacité à nous autoriser de nous-mêmes et des forces instituantes dans lesquelles on est pris pour intervenir et donc de nous situer dans le même type de mouvance, même sur des registres tout à fait autres, que Searles ou que Lacan. Et d'ailleurs, Gilles Arnaud, le gars qui a écrit le livre sur la psychanalyse des organisations, se revendique lacanien. Donc le projet, c'est celui-là. C'est de dire, c'est parce que les analystes institutionnels ont essayé d'instituer l'instituant en tant que tel, et qui sont donc retombés dans un cercle microcosmique, que leur pompe s'est désamorcée. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est autre chose. Il faut qu'on trouve les mots pour parler du monde, de l'institué et des forces instituantes, dans des termes qui nous redonnent la visibilité qui nous permet d'intervenir, et que dans ce cadre-là, eh bien, on remobilise toutes ces ressources théoriques, techniques, etc., de l'intervention, mais sans croire qu'on va instituer l'instituant en tant que tel, mais simplement vivre notre capacité à être instituant par les analyses et les interventions qu'on propose. C'est ça le recadrage fondamental que je propose à partir des ressources que je vous ai déroulées. Alors, à quoi sert le vocabulaire ? Je suis allé un peu à la conclusion large, là. C'était le plus important, ce que je viens de dire. Donc, on le laisse rentrer. On revient à mes petites cases avec plein de vocabulaire. Alors, on va faire des petits exercices critiques. Comment peut-on être à la fois autonome, en homme, c'est-à-dire accepter d'être en accompagnement des acteurs, empathique, orthodoxe et eudoxe, sans être schizopathe, schizodoxe et schizonome? Dit autrement, on en vit entouré de chercheurs qui nous disent « Ah, moi, je suis autonome. Je suis chercheur, donc je suis libre. » Il se trouve juste que j'accepte les repères normatifs des acteurs que j'accompagne. Ça m'empêche pas d'être complètement cohérent. Alors, on pourrait peut-être discuter des termes de cette cohérence. Et puis, bizarrement, je suis empathique avec les acteurs, c'est-à-dire que je partage leur passion, mais je suis complètement recevable dans le discours de ma discipline. Alors on peut se demander, par quel merveilleux hasard, les passions des acteurs que ce sociologue rencontre sur le terrain se trouvent être compatibles avec le discours général de l'institution. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Ce que je dis, c'est que ça permet de soulever des questions. Si je vais sur le terrain, je rentre dans les émotions des acteurs, et c'est extraordinaire ce que j'ai à raconter, et cohérent avec le discours institué. Pourquoi on est dans un monde qui a des problèmes si c'est comme ça? Si les passions des acteurs... Alors, ça peut être soit que je ne vais voir que les gens qui ont des passions qui correspondent justement au discours institué, etc. En tout cas, ça permet d'ouvrir la discussion pour voir ce qui se passe. Donc maintenant, mon deuxième exemple est emprunté à une chercheuse à la fois très fine, très intéressante et investie sur le dossier du loup. Comment peut-on être empathique avec deux acteurs antipathiques entre eux et tenir un discours synomique avec l'un des deux qui reste symétrique vis-à-vis des deux tout en restant autonome, c'est-à-dire en se donnant à soi-même ses propres repères normatifs? Ah, c'est génial, il faut qu'il y ait une source miraculeuse qui fait qu'en me mettant en symétrie avec les deux, en partageant les valeurs de l'un, j'arrive quand même à me mettre en symétrie avec le deuxième, et coup de bol, ça tombe pile avec mes propres repères normatifs que je me suis donné de moi-même. Donc, on voit bien que le fait de se donner des mots, ça ouvre des espaces de réflexion, des géométries, dans lesquelles les discours qu'on nous tient sont soit des figures extrêmement particulières, soit des figures impossibles, vous savez, dans ces bouquins-là où on vous montre des figures géométriques qui ne sont pas possibles. Donc, on ne serait pas complètement analytique si on s'amusait que à chatouiller les autres, donc on peut aussi se chatouiller. Alors, on va se regarder autour de la table, on va se dire, est-ce que nous partageons tous les mêmes valeurs au regard de l'environnement? Est-ce que ces valeurs sont indépendantes de nos situations pratiques à chacun? De nos statuts, de nos vécus, de nos intérêts, des menaces que font peser l'institution sur nous. Et puis, est-ce que nous partageons les mêmes situations? Alors, il y a un piège, évidemment, c'est que si on a répondu oui à toutes les trois questions, c'est qu'on n'a rien compris. Et si on a répondu non à certaines questions, là, ça devient intéressant la discussion entre nous. Évidemment, quelles sont nos relations avec les acteurs de terrain, par exemple, Romain, est-ce que tu es synonymique avec les ONG brésiliennes? Est-ce qu'elles te sont sympathiques au sens technique? Est-ce que tu as envie d'être empathique avec les mecs qui sont dans les bureaux à Belém? Est-ce que ta sympathie, ou plutôt ton empathie avec les fazendero, est-ce qu'elles se géométrisent facilement avec ton autonomie, etc. Donc là, on commence à avoir des mots pour... qui ne disent pas ces choses automatiquement, mais qui rendent plus facile de se dire qu'il faut se les dire, ou de voir où il faut chercher, et en tout cas qui encouragent à y aller. Où est-ce qu'on en est de notre relation dialectique entre l'instituant et l'institué? J'ai l'impression que notre instituant, il est un tout petit peu à bout de souffle, là. Il est, quand on voit le sentiment qu'on a, comment dire, l'instituant... sa manière de fonctionner, l'instituant, c'est le désir. Donc, ce qu'il doit faire, c'est bousculer l'institué. Le problème, c'est gentiment, pas en principe, mais quand même. Donc, quand on voit notre capacité actuelle à culbuter l'institué, on se dit qu'on est dans un état d'impuissance qui est quand même fort problématique. Donc, je pense qu'on a intérêt à réfléchir un tout petit peu sur quel courant instituant on est en prise, où sont nos désirs, qu'est-ce qui fait que cet institué, finalement, comme Xavier le disait presque tout à l'heure, si on ne le culbute pas, c'est aussi que finalement, il nous donne moyennement envie de le culbuter. Donc, là, il y a un véritable problème où on en est de notre instituant et de notre institué. Je conclurai par cette diapo-là par une question coluchienne. Est-ce que nous constituons à nous tout seuls un milieu autorisé? Puisque vous vous rappelez de Coluche, avec sa citation « Dans les milieux autorisés, on s'autorise à penser que ». Donc la véritable question, c'est qui s'autorise de qui? Et est-ce qu'on s'autorise que entre nous, c'est-à-dire dans un milieu autorisé? Et est-ce que le discours qu'on a vis-à-vis des autres a quelque chose de plus à dire que nous nous autorisons réciproquement entre nous à... Ok. Donc, pour conclure, je vais venir sur les pistes de recherche. Bon, d'abord... cette question de l'intervenance de la recherche en sciences sociales, c'est un chantier immense. C'est un chantier qui est latent, c'est-à-dire qui a été refoulé par les chercheurs en sciences sociales depuis une quinzaine d'années. C'est un chantier qui est resté sur les échecs des gens qui ont promu l'analyse institutionnelle. Et donc, ce chantier a relancé, mais dans des termes profondément renouvelés, que ce soit sur le plan théorique, pratique, et aussi qui doit... s'alimenter à des désirs instituants nouveaux, parce que c'est pas avec des vieux désirs instituants. Par exemple, c'est pas avec le désir de renverser l'autorité rigide du père institutionnel qu'on va faire des trucs Villepin comme père institutionnel rigide. Je veux dire, si on se révolte contre ça, là, il y a vraiment aucun intérêt. Donc, il faut trouver d'autres termes. C'est pas en ces termes-là qui nous emmerdent. L'institution nous emmerde. Elle nous emmerde au contraire parce qu'elle est séductrice, contradictoire, schizonome, schizodoxe, etc. Mais pas parce qu'elle constitue un monolithe hyper fort d'institution hyper efficace, mais écrasante. Alors, quelle perspective ça ouvre pour les sciences sociales dans le champ de l'environnement? La question est posée à l'ensemble des sciences sociales. En quoi ça renouvelle les termes dans lesquels nous pouvons poser notre propre intervenance? Nous ne sommes plus dans la situation de dire « nous sommes des intervenants contrairement aux autres » et puis voilà de manière très simple nos repères normatifs. Ça nous ouvre un espace de réflexion mais aussi un devoir de précision et d'approfondissement qui sont sans précédent dans notre propre travail. Et puis ça pose à chacun la question de nos situations d'intervenance personnelle. Donc il y a de quoi faire. Dans mon exposé, il y a un glissement, et ce glissement, il est assez fondamental. Je suis passé du chercheur à l'analyste en déroulant tout le raisonnement comme si le chercheur devait assumer le fait d'être un analyste. Ce point mérite d'être mis en discussion parce qu'il est absolument crucial. Alors d'abord, qu'est-ce qui me fait dire que oui, le chercheur doit assumer au moins en partie le fait d'être un analyste au sens précis qu'on a vu? D'abord, c'est que les discours alternatifs par rapport à ça sur la posture du chercheur ne sont plus suffisants. C'est-à-dire que toutes les autres propositions que j'entends ne sont pas en elles-mêmes suffisantes. Le gars qui dit « non, moi j'accumule juste des connaissances, après les gens les utilisent comme ils veulent », en sciences sociales, des gens qui toute la journée fabriquent des interprétations, qui balancent dans les gencives du terrain, de la politique et tout, ils sont juste là pour... Non, c'est pas possible. Deuxièmement, les gens qui disent « Ah, certes, je produis des effets pragmatiques, mais ils sont assumés uniquement par l'institution. » Avec les institutions qu'on a, avec le degré de contrôle démocratique qui existe sur nos organismes de recherche, avec l'efficacité évidente de leur action, on serait capable de dire « Non, non, on fait pleine confiance à l'institution, on délègue à 100%. » Non, c'est pas possible. Donc, la recherche, tous les chercheurs en SHS doivent assumer une certaine dimension d'intervenance et une dimension analytique. D'abord parce qu'ils formulent des interprétations sur des choix, des visions, des discours des gens. Et donc, ils doivent assumer le fait que ces interprétations les engagent en tant qu'interpréteurs. Deuxièmement, ils sont là à prendre les gens dans des dispositifs d'interaction avec les acteurs. Ils doivent assumer la dimension d'intervention de changement pragmatique de ces dispositifs. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, s'avancent dans cette direction en disant qu'ils sont là pour aider les gens à interagir, qu'ils créent des dispositifs pour discuter. Donc, au fond, à partir du moment où ils disent qu'ils font ça, il faut qu'ils assument jusqu'au bout le fait de l'intervenance et du fait qu'ils sont analystes et qu'il y a des mots, des normes, il y a des choses à dire là-dessus, quoi. Autre que de dire c'est bon, je fais des trucs, on interagit, c'est pour le bien, on change. Ils travaillent tous sur la base d'une activité d'écoute organisée, ce qui est aussi un point clé de l'analyse, et en relation avec une visée de changement. C'est-à-dire que, effectivement, un chercheur qui pourrait se dire pas du tout analyste, c'est un chercheur qui pourrait nous garantir, alors déjà, qui ne dirait pas qu'il est là à travailler pour le bien, pour améliorer les choses, donc exit les organismes finalisés, exit tous ceux qui ont un discours de changement, mais même ceux dont le discours n'interfère pas avec des gens qui tiennent un discours de changement. Parce que le gars qui dit « c'est pas vrai qu'on peut changer les choses », il peut nous dire « ah ben moi j'ai pas de visée de changement ». Ah ouais, mais sauf que t'interfères avec les gens qui ont des visées de changement, et en ce sens-là, t'es complètement impliqué dans le système. Donc, et puis, on pourrait faire des parallèles nombreux sur les gestes techniques du chercheur en sciences sociales, son écoute, ses dispositifs, son vécu, etc., etc. Et les gestes techniques des analystes, ça, c'est un sujet à soi tout seul, mais on pourrait rentrer là-dedans. Donc, ce qui est à assumer, en fait, si on veut réouvrir la discussion avec nos collègues de sciences sociales, c'est que il faut assumer que le chercheur en sciences sociales, il a choisi de s'intégrer dans des flux d'interprétation, qui interprète qui, pour restituer à qui, dans quelle configuration de responsabilité et de définition de l'horizon de changement, etc. On pourrait multiplier les questions. Et on devrait déclarer que le chercheur est responsable des effets de ses actes d'interprétation. Alors évidemment, on ne va pas revenir dans la règle où on va dire que le chercheur est coupable de manière monolithique d'une interprétation cacodoxique, ce qui était le choc des années 70, c'est-à-dire dès que quelqu'un parlait d'une autonomie de l'acteur, c'est qu'il rejetait en bloc le marxisme et qu'il était donc du côté du pouvoir et donc cacodoxe. Dès que quelqu'un parlait des macrostructures économiques et de leur poids sur les gens, c'est donc qu'il était marxiste et donc qu'il devait endosser toute la responsabilité de tout le merdier communiste, etc. Donc, c'est précisément de ça qu'il faut sortir et rentrer dans un système de responsabilité dans lequel on n'est pas dans une assignation monolithique de culpabilité, mais dans lequel il n'est pas question non plus que des gens refusent de discuter autour des effets de leurs actes d'interprétation. Donc concrètement, dans les situations de recherche, il faut rendre lisibles les flux de questions, d'écoute, d'expression, d'interprétation et les liens entre l'opérateur, l'autorité et les groupes de la société. Je crois que sur agriculture et environnement, ces questions-là, bah, c'est vraiment les questions fondamentales. On pourrait presque repartir de là avec Diva, avec ce transparent-là, en disant « mais quels sont les flux de questions, d'écoute, d'expression, d'interprétation, quels sont les liens entre l'opérateur, l'autorité, les groupes de la société, notamment sectoriels. » Un autre pan entier des conséquences de ces développements théoriques, c'est la question de l'interprétation théorique de la SGE. La théorie de la SGE, comment elle ressort si on la passe à ce bain-là ? Ben, on va surtout pouvoir lever d'abord un certain nombre de malentendus. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui nous entendent sans nous comprendre sont des gens qui croient que nous proposons une grille de lecture qui s'impose à tous pour lire le monde et pour dire, voilà, le monde est comme ça. Et par exemple, qui vont croire que quand on parle d'acteurs d'environnement, c'est parce qu'on pense que il y a trois sortes d'acteurs dans le monde. Il y a les acteurs d'environnement, il y a les acteurs intégrateurs, et puis il y a les acteurs sectoriels. Évidemment, c'est absolument pas de ça qu'il s'agit. On n'est pas en train de fabriquer une connaissance positiviste sur une typologie des acteurs. On est là pour proposer des concepts qui permettent de caractériser des instances, comme dans toutes les théories analytiques. On propose des instances qui proposent une lecture liée à un projet précis d'intervention, qui est un projet de mise en lisibilité autour du changement environnemental. Donc en fait, c'est une fois qu'on a replacé les concepts de base de l'ONGE, comme des concepts qui posent des instances et des plans d'analyse dans le cadre d'un projet d'intervention analytique, que les faux procès qui nous sont faits perdent complètement leur base, mais en même temps, nous, ça nous donne le devoir d'aller plus loin dans l'explicitation de ces bases-là, et ça nous permet de d'assumer beaucoup plus clairement notre projet. J'ai essayé, par exemple, de le faire dans le rapport que je viens de finir sur la place de la négociation, mais il y a sûrement à aller beaucoup plus loin là-dessus. Il est certain qu'on a été modérément explicite sur cet aspect-là de notre travail. On l'a assumé, mais on l'a assumé dans des termes très carrés parce que peu explicites. On pourra l'expliciter plus et on pourra pousser plus loin la discussion. Le but de cette discussion, c'est de mettre en discussion notre approche dans une stratégie globale de discussion où on met aussi en discussion les autres approches dans leur propre intervenance. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, on s'est le côté un petit peu brutal et simpliste de l'article NSS, il vient du fait qu'on va pas être, on va pas pouvoir imposer d'un seul coup une discussion dans laquelle nous on assume notre intervenance sans que les autres assument la leur du tout. Donc on est quand même obligé au départ de s'autoriser de nous-mêmes, pour reprendre la formule de Lacan, pour aller progressivement vers une situation où les autres vont être obligés petit à petit, il y en a beaucoup qui en ont envie d'ailleurs, de discuter de leurs propres intervenances, puisque c'est des modes différents d'intervenance, et au fur et à mesure qu'ils le feront, nous, on pourra être d'autres beaucoup plus précis, soft, nuancés sur notre propre intervenance, et donc l'espace collectif au sein duquel notre approche est une approche parmi d'autres, va pouvoir se construire de cette manière-là. Il est clair aussi que ça ouvre le chantier de la connexion avec l'analyse stratégique de gestion en général, indépendamment de l'environnement, et que là aussi, il y a un énorme chantier, et je pense des ressources énormes, parce que quand on lit le bouquin d'Arnaud, on s'aperçoit que dans les sciences de gestion, c'est pratiquement l'endroit où il y a le plus de gens qui ont une véritable culture de ces interventions institutionnelles. Et donc, on va trouver là des vrais copains, sans doute. Si on cherche, on va les trouver. Oui, j'ai mis, on est à coup sûr pas les seuls, et donc ça nous donne des pistes aussi pour aller vers d'autres courants instituants, d'autres courants institués également. J'ai un exemple de nouveau projet concret de recherche dans SGE. Alors, vous pensez à un organisme dont on dit souvent qu'il souffre de schizophrénie environnementale, un organisme d'action et de gestion. Sans arrêt, ce thème de la schizophrénie vis-à-vis de l'environnement est mobilisé. Ça fait des mois que je réfléchis à ça, parce que en butant sur une impasse, schizophrénie, c'est un concept qui ne convient pas. C'est pas des gens qui sont fous dans leur tête. C'est pas des gens qui sont psychologiquement divisés. Donc, il fallait bien essayer de déplacer le problème pour proposer des concepts qui permettent de comprendre qu'est-ce que c'est que cette schizophrénie. C'est-à-dire cette division, cette incapacité à être cohérent, ça n'est pas une schizophrénie. Eh bien, on commence à avoir des repères, c'est une schizonomie, une schizodoxie. Elle est liée à la manière dont se séparent d'une mauvaise manière les plans des grands dispositifs, des petits dispositifs, etc. En tout cas, on commence à avoir un vocabulaire qui va pouvoir permettre de dire, eh bien voilà, on va faire une recherche de terrain. On va prendre cet organisme dont les gens disent de manière populaire il est schizophrène vis-à-vis de l'environnement, et là, on dispose de la possibilité d'une intervention en ASGE qui ira beaucoup plus loin sur cette base-là de l'intervenance. C'est un des projets que je caresse. en espérant qu'il ne va pas me mordre, parce que ce qui est, en fait, j'aime beaucoup un certain nombre, je caresse un certain nombre de projets qui risquent de mordre. Donc là, il y a de quoi faire, et en faisant ça, on renouerait avec le concept de schizoanalyse de Deleuze et Guattari, sauf que eux n'ont pas fait l'ombre du début d'une proposition pour la mettre en pratique. En revanche, il y a des ressources théoriques particulièrement intéressantes. Une autre conclusion, c'est une conclusion un peu vertigineuse, c'est-à-dire que avec ces propositions, je me mets dans une situation de macro-analyse, c'est-à-dire de considérer que mon petit D dispositif à moi, c'est le grand D dispositif, c'est-à-dire la situation prise dans son ensemble. Franchement, si je pensais que j'avais le choix, je ne m'engagerais pas dans cette direction, mais je pense que je n'ai pas le choix. Et que la situation générale de nos interventions sur l'environnement est telle qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de petit dispositif que je puisse instituer et qui règle le problème. Je pense que, regardez les difficultés qu'on a à se micro-instituer en groupe, etc. Je suis obligé de basculer dans un jeu où l'enjeu, c'est de réinstituer d'essayer de trouver les ressources instituantes, au moins en moi, pour fonder la possibilité de parler au système et à la situation. Donc ces termes sont à renouveler. C'est sûrement pas en trouvant un lyrisme à la Debord que ça va marcher. C'est sûrement pas en essayant de réinstituer un groupe d'institutions pour aller faire de l'analyse critique de ces grandes institutions que ça va marcher. Res, c'est une tentative pour aller vers ça, enfin, la possibilité de poser les termes qui permettront de reparler de la possibilité d'intervenir sur cette situation pour comprendre et pour changer, mais une compréhension et un changement dont il faut renouveler les termes. Et voilà, la double contrainte de notre situation actuelle, c'est que sur l'axe entre le grand dispositif et le petit dispositif, entre la grande situation et notre capacité à créer des petits dispositifs qui arrivent à l'assumer, eh ben c'est dur. Sur l'axe de la contradiction absolue entre nos désirs, nos visées, ce qu'on pense que ce dont on pense que la société a besoin, et le discours institué dont l'institution, avec lequel l'institution nous dit ce qu'il faut faire pour avancer sur la société, c'est dur aussi. Donc on est coincé dans une double contrainte et on est donc obligé de changer de niveau de lecture. C'est pour ça qu'il n'y a pas le choix. Et donc, en traduisant avec le jargon de la séance RES 1, quand on est dedans, c'est dur de tenir, et quand on tient, c'est dur d'être dedans. Donc la question, c'est de savoir quelle recomposition et quelle ligne de fuite on va pouvoir trouver.